France Inter.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, il y a très longtemps en Grèce, la grande histoire d'Ulysse, telle que Homère a choisi de la raconter dans son Odyssée, est à deux doigts de s'achever. Ulysse s'est vengé. Il a supprimé de manière sanglante la centaine de prétendants qui pillaient ses richesses et humiliaient son épouse, Pénélope. Son épouse l'a enfin reconnu en lui tendant un piège. Il s'est fait avoir, lui, le rusé. Pour une fois, c'est lui le couillon. Ils s'embrassent après 20 ans de séparation. Mais ce n'est pas encore vraiment fini. Ulysse sait qu'en tuant les prétendants, il a massacré la jeune élite de son pays, les fils de la noblesse. Il sait que les pères de ses tués vont se venger et lui faire la guerre.
Quand les dieux rôdaient sur la terre. Pierre Judet de Lacombe sur France Inter.
Jusqu'à présent, l'histoire du retour à Ithaque était familiale. Elle avait pour cadre le palais, la famille, le domaine d'Ulysse, qu'il fallait récupérer contre la voracité des prétendants. Avec le massacre de ces prétendants, l'histoire devient politique. C'est toute la société d'Ithaque et des îles alentour qui est secouée, mise à mal par cette violence. On change de cadre. Il faut conclure. Comment Homère a-t-il choisi de finir son Odyssée ? Ce sera le dernier épisode de la saga d'Ulysse. Pour le moment, Ulysse et ses amis doivent s'armer, fuir et aller se réfugier à la campagne, loin de la ville. Ils rejoignent le domaine où le vieux père d'Ulysse, Laërte, s'est retiré pour tenter de vivre avec le chagrin que chaque jour nourrit en lui l'absence de son fils. Au point du jour, Ulysse, Télémaque, le porcher et le bouvier quittent le palais, traversent la ville et marchent vers le domaine où le vieux Laërte s'est retiré. Le père d'Ulysse n'est pas dans sa maison, mais soigne ses arbres dans un grand verger. Il est sale, habillé de pauvres vêtements de travailleurs misérables, des guêtres en peau de bœuf, un manteau rapiécé, une toque de chèvre. Il est triste à voir.
Quand l'endurant Ulysse l'aperçut ainsi, usé par l'âge et accablé par le chagrin, il s'arrêta au pied d'un grand poirier et il pleura.
Il est triste à voir. Ulysse ne sait pas quoi faire. Embrasser son père et tout lui dire, ou le mettre à l'épreuve et voir si Laërte le reconnaîtra. Il choisit de tester son père. On ne se refait pas. Ulysse lui parle de haut, lui demande de qui il est le serviteur, puis raconte ses salades habituelles. Comme quoi, il a vu Ulysse, mais c'était il y a longtemps, et pas si loin que ça. Ulysse aurait dû être déjà rentré. Il a dû avoir un malheur quelque part. Laërte, à l'entendre, éclate en sanglots, couvre sa tête de poussière. Ulysse n'y tient plus. Il dit qui il est. Il donne comme preuve sa cicatrice à la jambe et il identifie sans se tromper tous les arbres qu'autrefois son père lui avait donné à planter.
Tu me donnas alors 13 poiriers et 10 pommiers et 40 figuiers. De même, tu me désignas 50 rangs de cèpes dont chacun était vendangeable. Il y a là des grappes de toutes sortes. Quand les saisons de Zeus, du haut du ciel, les alourdissent.
Ulysse sait donc être cultivateur. Son père le reconnaît et l'embrasse. On va chez lui, Laërte est lavé, habillé. Athéna, comme elle sait faire, l'améliore. Il est splendide, semblable à un dieu. On fait un repas, des amis se joignent. Le groupe de ceux qui auront à s'opposer aux parents des prétendants grandit. La nouvelle du massacre des prétendants a fini par se répandre dans la ville. Des citoyens accourent dans le palais d'Ulysse, découvrent les morts, gémissent, emportent les corps qui ont droit à des funérailles, à Ithaque et dans les îles alentour. Puis, les habitants se réunissent en assemblée pour délibérer de la conduite à tenir après le massacre d'une bonne partie de la jeunesse. Le père du premier prétendant qu'a tué Ulysse, le méchant Antinoos, appelle à la vengeance. Cet homme s'appelle Eupeithes, à savoir celui qui s'est bien persuadé. Il émeut tout le monde. Mais deux hommes qu'Ulysse a épargnés, le porte-parole officiel du palais et le poète Phémios, interviennent et donnent un autre avis. « Il ne faut pas faire la guerre à Ulysse, » disent-ils. Dans sa vengeance, il a visiblement été soutenu par les dieux. Athéna était là pour l'aider à combattre. Un devin, le seul qui dans l'assemblée pouvait voir le passé et le futur, lance un grave avertissement. Les pères des prétendants sont coupables d'avoir laissé leurs fils commettre autant d'excès, de les avoir laissés dévorer les richesses d'un roi et déshonorer son épouse. Partir en guerre contre Ulysse serait source de grand malheur. Les dieux ne seraient pas d'accord. L'assemblée crie, hurle, fait du tapage. Une majorité décide de laisser tomber. Une minorité opte pour l'action guerrière. Elle se range derrière le père d'Antinoos et Eupeithès. Les partisans de la violence se couvrent de bronze. La crise est énorme. Une crise politique sans issue. Ulysse, au départ, était une victime. Il s'est vengé d'une injustice. Mais sa vengeance, un massacre total, féroce, a créé une très vive souffrance dans sa communauté qui s'est divisée. Les parents des tués veulent réagir avec la même férocité. Mais il reste que les prétendants avaient commis de grands torts. Comment rétablir l'unité de la communauté? Comment arrêter le cycle des vengeances qui risque d'être infini? La justice, réclamée par Ulysse, puis par les parents de ceux qui l'ont tué, au lieu de simplement éliminer l'injustice pour qu'une vie commune soit possible, rend toute vie commune impossible. On est dans une vraie impasse. Athéna elle-même, la déesse qui a tellement protégé Ulysse pendant le massacre, ne sait pas quoi faire. Elle est impuissante. Elle interroge directement son père, Zeus, le dieu souverain qui siège dans l'Olympe. Elle lui demande quelle est sa décision. Laisser la guerre civile s'enflammer ou instaurer une paix.
Cependant, Athéna disait à Zeus, fils de Cronos,
« Ô maître souverain, notre père, fils de Cronos, réponds à ma question. Quel dessein caches-tu? Vas-tu faire durer cette funeste guerre, cette horrible mêlée, ou rétablir entre eux la paix ?»
Mais comment rétablir la paix? Comment créer une concorde? Quand de part et d'autre, il y a eu tant de violence, de souffrance. Quelle justice peut réconcilier les deux parties, alors que c'est au nom de la justice qu'on a tué ou qu'on veut tuer? On connaît tellement bien cette situation aujourd'hui. Normalement, un conflit dans une cité est tranché par l'autorité d'un roi. Un roi montre que son autorité est légitime, précisément si par des décisions justes, il sait mettre un terme à un conflit. Il doit savoir désigner un élément commun qui réunisse les adversaires. Or là, c'est impossible. Celui qui avait la fonction de roi a disparu pendant 20 ans. Et à Ithaque, il n'y a eu pendant longtemps aucune autorité politique pour établir un bien commun. C'est l'anarchie. Et quand le roi, ou celui qui devrait le redevenir, revient, il massacre, au nom de la justice, une partie de sa population. Il n'y a apparemment de solution que dans la guerre civile. Et que le plus fort gagne. Mais Zeus ne l'entend pas comme ça. La communauté qu'est Ithaque a suffisamment souffert et il tient à ce qu'elle survive. La preuve, elle existe encore. Elle n'a pas été ravagée, comme Troie. Pour Zeus, l'impératif absolu, ce n'est pas la justice propre à telle ou telle partie, c'est la survie de la communauté. De même que la tâche de Zeus est de préserver l'unité des dieux de l'Olympe, malgré leurs très fréquents désaccords. De même, son rôle vis-à-vis des mortels est d'assurer l'unité d'une communauté humaine comme Ithaque. Zeus est un dieu politique. Il règne, il est indétrônable dans son Olympe, précisément parce qu'il a su et sait toujours faire régner la paix civile entre les dieux. Il n'est pas un tyran, il est le garant d'un partage équilibré, constant, reconnu, des dignités et des pouvoirs entre les dieux. Il applique la même règle politique pour les humains. Il punit les excès, parfois très violemment. Mais, fondamentalement, il tient à ce que le principe de la vie sociale soit respecté, à savoir un partage juste. Dans sa réponse, Zeus se moque d'abord de sa fille Athéna. C'est bien elle qui a créé cette situation inextricable en aidant Ulysse à punir les prétendants.
Celui qui sait rallier les nuages lui répondit:
« Mon enfant, pourquoi donc me poses-tu cette question ? N'avais-tu pas conçu toi-même ce projet afin qu'Ulysse, revenu, châtie les prétendants ?
Puis Zeus donne sa solution. Elle est surprenante.
Fais comme tu voudras, mais je te dirai ce qui est opportun. Puisque le noble Ulysse s'est vengé des prétendants, que l'on prête serment et qu'il règne à demeure. Nous, nous instituerons l'oubli total du meurtre des frères et des enfants. Que l'amitié renaisse entre eux comme autrefois, et que la paix et l'abondance viennent les combler.
À ces mots, Athéna sentit s'accroître son ardeur. Elle fondit du haut des cimes de l'Olympe.
Pierre Pellegrin, philosophe.
Nous assistons en fait dans l'Odyssée à la naissance du politique, c'est-à-dire le massacre des prétendants, qui sont les enfants des notables des différentes régions et des différentes îles qui composent le royaume d'Ithaque. Ce massacre met Ulysse et son fils, Télémaque, dans une situation périlleuse, dangereuse. Ce qui est très intéressant, c'est qu'à la fin de l'Odyssée, Ithaque est divisé en groupes antagonistes, d'autant plus hostiles entre eux que c'est le torrent du sang des prétendants qui les sépare. Il y a le clan d'Ulysse et le clan des autres. Donc ce que les dieux, et Zeus en premier, promeuvent en imposant la paix, c'est une prise en compte des positions et des intérêts des différents partis. C'est-à-dire que le cycle des violences physiques est terminé. On est presque dans une cité de l'époque classique, n'est-ce pas ? L'agonistique quitte le champ de bataille et vient sur l'agora.
Je voudrais perdre la mémoire pour ne plus changer de trottoir. Quand je croise mes souvenirs, ne plus revoir ces revenants qui reviennent de temps en temps. M'étouffer avec leur sourire. Amis des bons, des mauvais jours, belle de nuit, belle d'amour, pardonnez-moi d'être infidèle, on a fait un bout de chemin, on s'est perdu le lendemain. Quoi bon qu'on se le rappelle. La terre a tourné sous mes pas, l'un est ici, l'autre là-bas, le troisième est au bout du monde, le quatrième c'était moi, je vivais à l'ombre de toi. Je m'en souviens. Tu étais blonde. Je voudrais perdre la mémoire, ne plus penser, ne rien savoir, ne plus avoir à me mentir, ne plus toucher à ce qui reste, surtout ne plus faire un seul geste pour le garder ou l'embellir. Amis des bons, des mauvais jours, amis d'hier et de toujours, parfois je veux être amnésique pour ne plus souffrir de l'absence, pour étouffer dans le silence la vieille chanson nostalgique. La terre a tourné sous mes pas, l'un est ici, l'autre là-bas, le troisième est au bout du monde, le quatrième c'était moi, je vivais à l'ombre de toi. Je me souviens, tu étais blonde.
Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre, Pierre Judet de Lacombe.
Je voudrais perdre la mémoire pour ne plus changer de trottoir quand je croise mes souvenirs.
Pierre Judet de Lacombe évoque la guerre civile qui menace Ithac.
Zeus, tout d'abord, rétablit Ulysse dans son autorité de roi. Ce qu'il a fait est une vengeance contre des gens injustes. En ce sens, c'était légitime. Ulysse doit régner. Mais ce qu'il a fait est aussi une violence inouïe. Pour que cette violence ne crée pas à son tour une violence, Zeus fait instaurer l'oubli. Les parents des prétendants ne devront jamais évoquer le souvenir de la mort violente de leurs proches, car cette mort ne doit pas être vengée. Sinon, la cité qu'est Ithac disparaîtrait. Le deuil des parents des prétendants, leur chagrin et leur colère doivent tout simplement être effacés. Ce qui prime pour Zeus, c'est l'amitié, la concorde entre les membres d'une même société, quel que soit leur grief. Pour cela, les souffrances que les uns ont éprouvées à cause des autres doivent être oubliées. Pour que la cité survive, toute une partie de sa population, celle qui a été maltraitée par Ulysse, doit tirer un trait sur son passé. La cité doit oublier son histoire. C'est une politique du non-souvenir, de l'amnésie. Il est interdit de se souvenir parce que cela ferait renaître les ressentiments, les conflits. Cet oubli ne peut être imposé que de l'extérieur, par un Dieu tout-puissant, car les humains n'ont par eux-mêmes aucune envie d'oublier. L'oubli n'est pas équilibré. Il ne concerne que l'un des deux partis, le parti vaincu. Zeus ne demande pas à Ulysse d'oublier le mal qu'ont fait les prétendants à sa famille. S'étant vengé, il est satisfait et il est roi. Mais sa vengeance, qui est un acte horrible en soi, qui normalement devrait être réparé, n'aura pas de conséquences. La réparation, ce sera l'amitié, le bonheur collectif, après la crise et ses horreurs. Ithac et les îles des alentours redeviendront une société heureuse, prospère, bien gouvernée. En imposant l'oubli, Zeus désigne clairement une faiblesse politique humaine. Les hommes ne sauraient pas régler leurs conflits par eux-mêmes. Ils seraient voués à l'autodestruction dans une violence infinie. Il faut une autorité divine. Le bien commun dans une société, c'est-à-dire un bien vraiment commun à toutes les parties d'une même société et qui lui permet de vivre, peut difficilement venir de la société elle-même. Il peut difficilement être compris, voulu par les membres de cette société, car chacun est pris dans ses griefs, sa colère, ses intérêts. Seul un Dieu peut, autoritairement, imposer ce bien commun. Ce bien passe par l'oubli des douleurs, des griefs, quand la violence a été trop rude, d'un côté ou de l'autre. Cette politique de l'oubli, de l'amnésie obligatoire, a eu une grande importance dans la politique des cités grecques, comme l'a souligné l'historienne de la politique ancienne, Nicole Laureau. Les cités grecques ne pouvaient pas toujours compter sur l'intervention directe de Zeus pour amener la paix, comme à Ithac. En cas de vif conflit, de guerre civile, la bonne politique consistait à trouver un accord de manière à instaurer l'oubli pour que la société puisse vivre. C'est ce que souhaite, vers l'an 600 avant Jésus-Christ, un poète de l'île de Lesbos, Alcée, Alcaios, engagé dans une grande lutte politique qu'il espère gagner. En cas de victoire de son parti, Alcée déclare qu'enfin l'oubli sera possible. Ce sera la condition du maintien de la paix.
Nous pourrons oublier totalement cette colère. Nous freinerons les divisions qui dévorent le cœur et les guerres dans la tribu.
L'oubli a aussi joué un grand rôle dans la vie politique d'Athènes. C'est le moyen qui a été trouvé pour sortir d'une crise majeure. Nous sommes en l'an 403 avant Jésus-Christ. Athènes vient de perdre sa très longue guerre contre Sparte. La démocratie athénienne est brutalement remplacée par un régime tyrannique, plutôt meurtrier. Une révolte des démocrates, montée depuis le port du Pirée, combat cette tyrannie et finit par la renverser. Les démocrates, vainqueurs, sont prudents. Ils arrêtent tout processus de vengeance. Après s'être débarrassés de la tyrannie, ils font prêter un serment très contraignant qui interdit à tout citoyen, quelle qu'ait été sa préférence politique pendant la crise, quels qu'aient été les torts qu'il a subis, de faire mémoire du mal qu'on lui a fait. Une amnistie est déclarée, elle s'accompagne d'un devoir d'oubli. un élève anonyme du philosophe Aristote, nous a conservé le texte de ce serment.
Des événements passés, nul n'a le droit d'en garder rancune envers quiconque.
Garder rancune, en grec, c'est faire mémoire des malheurs. Mnesi kakein. Seuls les 30 citoyens qui avaient effectivement exercé la tyrannie et leurs sbires n'étaient pas concernés par cette amnistie, amnésie. S'il y avait un contrevenant, il était exécuté. L'élève d'Aristote commente.
Il semble bien que les Athéniens aient usé de leur malheur passé de la façon la plus belle et la plus politique.
Au-delà des outrages, des malheurs vécus, il y a le bien commun, à savoir la survie de la cité. Au sortir d'une guerre civile, le vainqueur peut imposer que tout soit oublié. Cet oubli obligatoire doit être solennel, mémorable, inoubliable, sans jeu de mots. L'amnésie peut donc être une méthode politique efficace pour établir la paix. Mais une cité à ce compte-là oublierait toutes les épreuves, les souffrances, les haines qu'elle a dû traverser pour en arriver là. Heureusement, il y a la poésie, avec ses muses, qui sont les filles de la déesse mémoire et qui n'oublient rien. La poésie saura toujours faire revivre ce que la politique essaye d'effacer. Homère raconte, sans rien oublier, ce qu'ont subi Pénélope, Télémaque et Ulysse du fait des prétendants, ainsi que l'horreur massive de la vengeance d'Ulysse. Poésie et politique ne travaillent pas pour la même cause. L'une, dans le meilleur des cas, la politique, cherche la concorde ou la durée d'une société. L'autre est là pour rappeler, avec un art extrêmement précis et raffiné, ce qu'il en est des expériences souvent traumatiques qui secouent les existences et les groupes. L'épopée, si minutieuse dans sa description des violences, puis la tragédie, se chargeront de donner des mots, du sens au malheur que la politique voudrait oublier. La poésie va ainsi créer un lien puissant entre les individus qui, en foule, entendent les mêmes poètes, qui assistent au même spectacle. Mais ce ne sera pas précisément un lien politique. Imposer Ulysse comme roi, soumettre et faire jurer à ses ennemis, imposer l'oubli des morts et l'amitié, c'est la décision de Zeus. Mais comment cela va-t-il se passer réellement? La haine est tellement grande de part et d'autre. Homère, comme d'habitude, nous réserve des surprises. Il ne se contente pas de raconter, il analyse la situation. Le choc guerrier va avoir lieu. Les parents des prétendants bien armés marchent en masse vers la maison où Ulysse et ses amis, pas même une dizaine, se sont réfugiés chez son vieux père Laërte. En face, c'est le nombre. On ne sait pas combien, mais un grand nombre. On est à Hoquet Corral, mais le combat n'est pas égal. Les autres arrivent. Ulysse et les siens font une sortie. Ils sont bardés d'armes. Athéna les accompagne. Elle a pris l'apparence d'un bon ami de la famille, Mentor. Cela donne confiance. Ulysse et Télémaque s'encouragent mutuellement. Il y va de l'honneur de la famille.
Télémaque, au moment d'entrer dans la mêlée où se distinguent les meilleurs, pense à ceci. Garde-toi d'entacher la race de tes pères qui, jusqu'à ce jour, ont fait briller partout leur force.
Question bravoure guerrière, honneur familial. Télémaque n'est pas en reste.
Si tu le veux, mon père, tu verras que ce cœur-là, comme tu le souhaites, n'entachera pas ta race.
Le vieux Laërte exulte. Il est ravi de voir son fils et son petit-fils rivaliser d'ardeur. 3 générations de guerriers sont réunies, avec lui compris. Et d'ailleurs, c'est lui le vieillard qui accomplira le premier acte de guerre, grâce à Athéna. Elle va le booster, le combler de vigueur, et lui demande de lancer sa grande lance sur l'ennemi, après avoir prié Zeus. Laërte s'exécute. Il tire et il descend le chef des ennemis, le très en colère Eupeithes, le père du plus redoutable des prétendants, Antinoos, celui qu'Ulysse a liquidé en premier. L'homme s'effondre, exactement comme un guerrier de l'Iliade.
Il tomba avec bruit. Les armes sur lui s'entrechoquèrent.
Puis c'est la ruée. Féroce, Ulysse et Télémaque se jettent sur les premiers rangs des ennemis et les attaquent à coups d'épée et de lance. Ils les auraient tous tués si Athéna n'était intervenue à grands cris. Elle arrête tous les combattants.
J'en dis tac, cessez ce pénible combat. Au plus vite, sans plus de sang, séparez-vous.
Les parents des prétendants sont effrayés par la voix de la déesse. Leurs armes s'envolent de leurs mains et tombent. Ils se débandent, se précipitent vers la ville pour sauver leur vie. Mais Ulysse, le guerrier, est incorrigible. Cette débâcle massive lui donne l'envie de tuer encore et encore. Après tout, qu'est-ce qu'il sait faire, Ulysse ? Raisonner, ruser pour s'en sortir et massacrer à tour de bras, comme il l'a fait à Troie et dans son palais avec les prétendants.
Ulysse l'Endurant poussa un effroyable cri, se ramassa comme l'aigle des hauteurs, bondit.
Quand les dieux rôdaient sur la terre. Pierre Judet de Lacombe.
Dieu, sadomaso, fait pour la pelle. Les gens là-haut, tu t'en rappelles. Et les enfants en tourbillon, dans un palais de papillons. La vraie vie, la belle. Allez, viens, qu'on s'y frotte. Ma colombe, ma cocotte. Des charmes, allant des larmes. Vie, violence, ça va de pair. Les deux se balancent, paradis. Je suis bon, non, 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 non de Dieu.
Pierre Judet de Lacombe raconte comment Zeus a imposé la paix.
Zeus, cette fois, en a vraiment assez. Il veut arrêter Ulysse, ce fou de guerre. Il lance sa foudre. Il aurait pu stopper Ulysse directement en faisant claquer l'éclair juste devant lui, comme il le fait dans l'Iliade, quand il veut stopper net un héros. Mais chose très bizarre, Zeus frappe le sol non pas devant Ulysse, mais devant sa fille, Athéna. En fait, Zeus donne un avertissement à sa fille, en qui il n'a pas tout à fait confiance. Avec sa foudre, il l'assomme de se conformer à la décision qu'il a prise et qu'il lui a communiquée. Athéna doit rétablir la paix à Ithaque. La guerre doit cesser. Athéna doit donc arrêter son grand protégé qui risque de tout détruire.
Et Athéna, aux yeux brillants, dit à Ulysse :
Fils de Laërte, enfant de Zeus, industrieux Ulysse, contiens-toi. Interromps le combat qui égalise tout, de crainte que Zeus, l'assourdissant, ne t'en veuille.
Ainsi dit Athéna. Il obéit, son cœur se réjouit.
Un mot d'Athéna. La menace que Zeus se met en colère, et ça suffit, tout est fini. Ulysse arrête son attaque, il est content. Il a gagné, mais sans massacre cette fois. Puis viennent les tout derniers vers de l'Odyssée. Grâce à Athéna, une paix durable est conclue entre les adversaires. Ithaque peut vivre dans la concorde.
Entre les deux parties, elle établit pour l'avenir une paix jurée. Pallas Athéna, la fille de Zeus qui tient l'égide. Elle avait l'apparence de mentor, pour la stature et pour la voix.
Fin du poème. La paix va régner. Le serment juré par les habitants d'Ithaque ne sera pas violé. Happy end. Après tant de morts. Ulysse sait que ses errances ne sont pas finies. Il sait qu'il devra tout de suite repartir pour atteindre un pays qui ne sait pas ce que c'est que la mer. Quand il arrivera là, sur cette terre qu'il ne connaît pas, quand un terrien prendra la rame qu'il porte sur l'épaule pour une pelle agricole, il sait qu'il sera au bout de ses errances. Il sait qu'il devra faire un sacrifice à Poséidon, le dieu de la mer, qu'il a tellement persécuté pendant des années. Puis, il reviendra chez lui et aura une vieillesse opulente, luisante, entourée d'une population heureuse. Une vie normale avec Pénélope sera enfin possible. La fin de l'Odyssée n'est pas flamboyante, grandiose. Elle s'achève en débouchant sur un temps ouvert, le temps que pendant des générations pourront vivre des humains dans des conditions normales. On est loin des destins grandioses et cruels d'un Patrocle ou d'un Hector dont les funérailles monumentales marquent la fin de l'Iliade. On est loin d'Achille, le héros incomparable que l'Odyssée salue et auquel elle dit adieu. Une vie au jour le jour, sans destin, est rendue possible par la fin si sobre de l'Odyssée. Et on peut se mettre à rêver. Si seulement Zeus pouvait se réveiller. Si seulement un Zeus soucieux de l'avenir, de la concorde, comme Zeus l'a été finalement à Ithaque, venait d'un claquement de sa foudre, arrêter les belliqueux frénétiques d'aujourd'hui, les forcenés de la tuerie et de la prise d'otages, ou par vengeance du massacre de milliers d'enfants et de ce qu'il faut bien appeler de la déportation programmée de tout un peuple. Ces violents n'ont pas compris ce que rappelle Homère dans son poème, à savoir que les criminels, les tueurs en masse, n'abîment pas seulement la vie des autres, mais la leur propre. Si seulement un Zeus pas sectaire écoutait enfin celles et ceux qui dans les deux camps sont révulsés par cette sauvagerie. On peut rêver, mais apparemment, ce n'est pas demain la veille. Aujourd'hui, ça ne pourrait pas se faire par l'oubli, par l'amnésie. Il faudrait au contraire se souvenir et que chaque camp entre patiemment, précautionneusement, dans la mémoire de l'autre et la fasse sienne. Il y a peut-être là un immense travail à accomplir d'urgence pour l'art, que ce soit par les images, les musiques, les mots écrits, chantés, dansés ou parlés, comme savait si bien le faire l'épopée, puis la tragédie autrefois. L'art se fiche des arguments religieux, nationaux, géopolitiques, tribaux, qui alimentent les conflits sanglants. Il les connaît, mais ce n'est pas son job de les répéter et de les asséner. Ces arguments archi-connus, l'art, quand il le veut, les examine, et il voit ce qu'il signifie réellement dans la vie vécue au jour le jour. Il essaye, tant bien que mal, grâce à son savoir-faire technique artisanal, de donner leur valeur aux expériences les plus concrètes, les plus dures et parfois les plus heureuses. Il s'immerge dans ce qu'il y a de plus singulier, de plus incomparable, dans ce qui semble le plus intime, secret, et par là, il le communique, il en ouvre l'accès. Homère savait faire cela. Il ne pleurait pas sur un seul camp, mais il savait pleurer et faire pleurer sur les douleurs, sur les histoires des deux. La fin de l'Odyssée ne dit rien sur la manière dont les humains devraient se comporter politiquement pour aider une société à se maintenir, à se gérer dans le temps. Homère, le poète, laisse cela aux penseurs et philosophes qui s'occupent de la sagesse, qui professent des règles bien rationnelles pour une vie bonne et juste. Ce n'est pas son truc. Homère s'intéresse non pas à ce que tout un chacun doit faire dans la vie. Il s'intéresse à des événements radicaux, à des ruptures, à l'immense adversité qui s'acharne sur quelqu'un comme Ulysse quand il est dépossédé de tout ce qu'il est, quand les dieux lui font payer les massacres qu'il a commis à Troie en le jetant pendant des années sur les mers. Puis, une fois dans son pays, quand son retour est loin d'être gagné, car son chez-lui n'est plus à lui. Il doit le reconquérir par la ruse, en s'humiliant lui-même, par des ententes minimales et risquées, puis par une extrême violence. Ce qui intéresse Homère, ce n'est pas la régularité de la vie, mais c'est ce qui fait l'histoire, ses changements, son côté imprévisible, c'est l'événement, dans toute sa brutalité, dans sa nouveauté. La vie bien réglée, comme elle peut se maintenir, ça arrivera bien assez tôt, quand le poème sera fini. Ce sera l'affaire des auditeurs, pas celle de l'épopée.
Je m'appelle Ulysse, fils de Laërte, roi d'Ithaque et vainqueur de Troie. C'est du côté où naît l'aurore aux doigts de rose qu'est mon royaume. Et c'est là que m'attendent mon fils, ma femme. J'ai voyagé pendant plusieurs années poursuivi par la colère des dieux. Et par eux, chaque fois éloigné de mon royaume, maints désastres m'ont accablé. Mais lutter contre la tempête, je n'ai plus d'amis. Ils ont péri, noyés. Je n'ai plus personne, je suis seul. Mais je suis vivant. Et aujourd'hui, je dois en toute hâte retourner chez les miens qui toujours m'attendent.
Qu'est-ce qu'Ulysse a appris pendant son immense voyage et pendant cette très longue reconquête de sa maison et de sa famille? En fait, pas grand-chose. Il est allé très loin, le plus loin possible, même chez les morts. Mais il ne change pas. À Troie, chez le Cyclope, face à Charybde et Scylla, aux sirènes, dans son palais, il est toujours le même, le rusé. Ulysse a l'intelligence nombreuse et l'actif, le plus que brave et fort, qui n'hésite pas à agir en héros. Il a traversé des sociétés improbables, douces, accueillantes, droguées ou cannibales, divines ou très humaines. Mais cela ne l'a pas enrichi dans sa tête. Chaque fois, l'urgent n'était pas d'apprendre, mais de réagir au mieux, au plus pressé. Il fallait à tout prix s'échapper, fuir. Il y est arrivé. Il a perdu tous ses compagnons, mais il s'est sauvé. C'est l'auditeur, puis le lecteur, qui va se mettre à changer, qui va découvrir. Nous sommes passés par des lieux incroyables, tous impossibles, tous invivables pour des humains normaux. Cette mosaïque d'îles, de populations, de divinités, de forces naturelles inouïes, ces lieux hors du monde, ne sont pas notre monde. Mais ils montrent chaque fois quelque chose de notre environnement connu, le plus familier. Les lieux d'Ulysse, de ses errances, ne constituent pas un monde continu, cohérent. Ils sont comme des étoiles lumineuses dans un immense ciel vide. Mais ces étoiles, par leurs relations, par leurs contrastes, leurs attirances, leurs ressemblances, constituent une même constellation. Elles forment un tout dont la forme générale est claire. Mais c'est, comme dans chaque constellation du ciel, une forme qui n'a pas de centre. Entre les étoiles, il n'y a que le vide. Et pourtant un dessin apparaît, comme dans le ciel. On reconnaît les Pléiades, Orion, la Grande et la Petite Ours, Cassiopée. En face de ces lieux dispersés comme des étoiles, il y a le tout petit monde d'Ithaque, une toute petite île rocailleuse, un monde bien centré, compact, matériel, tangible, l'inverse d'une constellation. Ce n'est pas une île hallucinante, fantasmagorique, comme toutes celles du voyage d'Ulysse. On a envie de dire que Ithaque, c'est l'île du réel, du présent. Une société à la fois loin des lieux extraordinaires des aventures d'Ulysse et loin du monde ancien des héros, des vainqueurs de la guerre de Troie, qui se retrouvent pour la plupart confinés dans les enfers ou hors du temps présent, hors d'usage. Ithaque, ce petit monde bien réel, apparemment familier, est en fait opaque, tendu, contradictoire, difficile à maîtriser. On y retrouve pêle-mêle Tant de traits qui rappellent les îles du voyage. La sauvagerie, la violence, la fourberie, mais aussi les plaisirs, les raffinements, les amours. Ces îles lointaines se laissaient comprendre plutôt facilement, car chacune présentait une manière fixe et bien définie de se rapporter au monde, à la nature, aux dieux, à la politique, à la société, à la nourriture, à la poésie. À Ithaque, au contraire, tout est flou, tout peut changer. Cela dépend des actions de ses habitants, de leur choix. Ithaque ne se laisse pas saisir d'un coup. Ithaque est indéfini, informe, encore à faire, au moment où Ulysse y débarque. Peut-être que la force de l'Odyssée, son côté non simpliste, est de ne pas nous donner une représentation définie, fixe, de ce qui est ou pourrait être le monde présent, comme tendrait à le faire un ouvrage bien intentionné et plein de leçons morales et de sagesse. L'épopée d'Homère nous offre, dans les récits du voyage, une multitude complète et bien organisée d'îles différentes qui éclairent chaque fois, comme un trou de lumière dans le ciel nocturne, un aspect d'Ithaque, un aspect partiel qui peut changer à tout moment. Comprendre notre monde présent, l'environnement qui nous tient, en fait, c'est voyager. C'est faire comme Ulysse, c'est renoncer à un point de vue unique et se demander en quoi cette constellation d'îles imaginaires si différentes nous éclaire sur notre monde qui est opaque, indécis et éclaté, qui demande qu'on ait plein de points de vue différents, à la fois.
France Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre.
Let it go.
Pierre Judet de la Combe évoque les légendes sur Ulysse et Pénélope. Qu'Homer n'a pas reprise.
Fin de l'Odyssée, fin de notre voyage chez Homer. Mais Homer ne nous a présenté qu'un seul Ulysse, le sien, qu'il a soigneusement distingué des autres Ulysses qui circulaient dans les légendes, dans les poésies et les histoires. Il y avait plein d'Ulysses possibles, connus, ça fourmillait. On peut supposer que beaucoup n'étaient pas inconnus d'Homer, mais il ne nous a pas tout dit. Ulysse, c'est un maquis, un buisson de tradition, on s'y perd. Malheureusement, nous avons perdu tous les récits poétiques qui racontaient ces Ulysses différents. Nous avons des résumés, des mentions savantes. On peut quand même se faire une idée de ce foisonnement. Mais excusez-moi, ça va être touffu et partir dans tous les sens. Un bouquet final pour Ulysse, ça n'aura pas le souffle marin de l'Odyssée. Faisons un peu de petit cabotage entre des morceaux d'histoire qui, pour beaucoup, sont des histoires d'infidélité. Dans l'Odyssée, les parents des prétendants n'arrivent pas à venger leur fils. Ils doivent se soumettre et oublier leur deuil. Ça n'a pas toujours été comme cela. Selon une tradition, ses parents ont eu raison d'Ulysse et ont même pu le chasser d'Ithaque. On trouve dans un manuel ancien de mythologie qu'Ulysse a été publiquement jugé puis condamné pour le meurtre des prétendants. Le juge, choisi par les familles des massacrés, n'était pas n'importe qui. C'était le fils d'Achille, Néoptolème, dont les motivations n'étaient pas très pures. Néoptolème en aurait profité pour prendre possession de l'une des îles de l'archipel d'Ithaque, l'île de Céphalénie.
Il y a aussi ceux qui racontent que les parents des prétendants qui étaient morts portèrent une accusation contre Ulysse et qu'ils choisirent comme juge Néoptolème, qui régnait sur des îles voisines, et que celui-ci, voyant que le départ d'Ulysse lui permettrait de prendre le pouvoir sur Céphalénie, le condamna à l'exil. Ulysse s'en alla alors en Étolie, où il s'unit à la fille de son hôte et lui laissa un fils, Léon Tophonos, tueur de lions, puis mourut à un âge avancé.
Question enfant, Ulysse a été nettement plus prolifique que ne le laisse entendre Homère, qui ne mentionne que Télémaque. Ainsi, les 7 années de liaison avec Calypso dans son île lointaine n'ont pas été stériles. Le poète Hésiode, ou un de ses successeurs, quand il fait la liste des unions entre déesses et mâles mortels, mentionne 2 enfants de Calypso et d'Ulysse. Ils ont des noms marins, Nausithoos, à la vitesse d'un navire, et Nausinoos, à l'esprit de navigation.
Calypso, divine parmi les déesses, engendra Nausithoos pour Ulysse et Nausinoos, unis dans l'amour désirable.
Homer ne dit pas un mot de ses rejetons, inconnus par ailleurs. Pour Homer, Ulysse est entièrement dans le regret de Pénélope et de sa famille existante. Mais le texte de l'Odyssée révèle une surprise et pas mal d'humour. Lors de la toute première présentation de Calypso dans l'Odyssée, au tout début, le texte d'Homère présente une bizarrerie. Homère dit que Calypso retient Ulysse. Il est privé de son épouse, dont il a un enfant, mais Calypso brûle de l'épouser. Or, si on regarde les premières lettres de chaque vers de ce passage, on lit très clairement « deux nouveaux enfants », en grec « nea tekna ». C'est la pratique poétique qu'on appelle l'acrostiche. Sur acro, la pointe, l'extrémité, comme dans acropole, acrobate, et stikos, la ligne, le vers. La suite des premières lettres de plusieurs vers, si on lit verticalement, livre un autre message que le texte lui-même. À un moment ou à un autre, on ne sait pas quand, le texte oral d'Homère a été mis par écrit. En écrivant le texte, un petit rigolo a choisi avec soin et malice les premières lettres de plusieurs vers, de manière à faire entendre que oui, Ulysse regrette sa femme, dont il a un enfant, le bien connu Télémaque. Mais en fait, là-bas, chez Calypso, sans qu'Homère le dise, Ulysse ne s'est pas privé de faire de nouveaux enfants, nea tekna, ce dont parle une autre tradition qui était connue à l'époque. Question enfant hors mariage avec Pénélope, ça n'a pas toujours été très gai pour Ulysse. Dans une légende, Ulysse, après le massacre des prétendants, se rend sur le continent, en Épire, au nord de la Grèce. Il séduit la fille de son hôte, en a un enfant, puis, toujours fidèle à lui-même, il s'en va. L'enfant, un certain Euryalos, grandit. Il veut voir son père, il part pour Ithaque, avec des signes de reconnaissance. Ulysse n'est pas là. Le jeune homme tombe sur Pénélope, qui comprend tout de suite. Quand Ulysse revient, elle lui dit qu'un jeune est arrivé pour le supprimer. Ulysse le tue ou le fait tuer par Télémaque. Sophocle a écrit une tragédie sur cette histoire, Euryalos. Elle est complètement perdue. Plusieurs traditions disent qu'Ulysse avait reçu un oracle lui annonçant qu'un fils le mettrait à mort. Parfois, Télémaque, soupçonné, est exilé par son père. Parfois, c'est terrible. Un poète épique qui date du 6e siècle avant Jésus-Christ, Eugamon de Cyrène, a composé un poème qui était censé faire suite à l'Odyssée. Ce poème s'appelle la Télégonie, du nom du fils qu'Ulysse aurait eu avec Circé. Ce fils s'appelait Télégonos, celui qui est né loin. Ce poème s'est perdu. On a quelques éléments de récit. Ulysse s'en est allé accomplir le rituel que lui a ordonné Tirésias dans un pays loin de la mer.
Où l'assaut des vagues ne réveille pas la nuit.
Lors de ce voyage sur le continent, il épouse une reine, une dénommée Callidiké, belle justice, à qui il laisse un fils. Cette nouvelle épouse meurt. Ulysse revient à Ithaque. Il découvre que Pénélope lui engendrait un autre fils, au nom guerrier, Ptolyportès, pilleur de ville. Exactement ce qu'a été Ulysse. Ulysse passe une vieillesse comblée avec Pénélope.
Il avalait sans réserve des viandes innombrables et de la douce ivresse.
Mais le malheur arrive. Ulysse avait laissé chez Circé un fils Télégonos. Ce fils se met en quête de son père. Il arrive à Ithaque, que sans doute il n'a pas identifié comme étant l'île d'Ulysse. Il se met à ravager Ithaque. Ulysse part en guerre contre lui. Le père et le fils ne se reconnaissent pas. Le jeune Télégonos tue Ulysse avec une arme qui venait de la mer, le dard empoisonné d'un poisson raie. Télégonos découvre son erreur. Un dénouement inattendu a lieu. Le jeune Télégonos emporte le cadavre de son père Ulysse chez Circé, sa mère. Il est accompagné de Télémaque et de Pénélope. Et tout se conclut par deux mariages. Télégonos épouse Pénélope et Télémaque épouse Circé. La magicienne Circé a d'abord pris soin de rendre Télémaque et Pénélope immortels. Toutes les limites que l'Odyssée s'exprimait à poser entre humains et divinités, entre les générations, sont supprimées. Homère semble bien avoir connu cette histoire. Tirésias, dans l'Odyssée, annonce à Ulysse qu'il va mourir d'une mort qui viendra de la mer. C'est bien ce qui arrive avec Télégonos et son arme de poisson. Mais tout n'est pas toujours si tendre, si on peut dire, pour Pénélope. On dit parfois qu'Ulysse, en arrivant à Ithaque après sa longue absence, découvre que Pénélope l'a trompé avec le méchant prétendant Antinoos. Il la tue ou il l'exile. Pénélope quitte Ithaque, s'en va dans le pays sauvage couvert de forêts qu'est l'Arcadie. Là, elle rencontre le dieu Hermès, avec qui elle a un fils, le dieu Pan. Le dieu des bois, des amours sans limite, dieu à la fois de la musique avec la flûte de Pan et de la sauvagerie. De mauvaises langues disent que ce dieu s'appelle Pan, Pan, qui veut dire tout en grec, parce que Pénélope a couché non pas avec un, mais avec tous les prétendants. Les gens sont méchants. Parfois, on dit qu'Ulysse a fini transformé en cheval. Il court toujours.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, Pierre Judet de la Combe.
Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia. Les archives sonores ont été choisies par Claire Tesser. Les textes ont été lus par Yaël El-Haddad et Laurent Stocker, avec la voix d'Andrea Lechêne. La programmation musicale est de Thierry Dupin. Bonne journée sur France Inter.